Bonjour à tous et bienvenue dans Jeunes 88, l'émission qui donne la parole aux jeunes, aujourd'hui animée par Pierre. Nous allons maintenant écouter la première partie de l'interview de Mgr Philippe Cristori, évêque du diocèse de Chartres, qui a été réalisée le mercredi 31 novembre à Thésée, par les jeunes du diocèse lors de la visite de l'évêque en Bourgogne. Autour d'une table ronde et d'un micro, Malo, Louise, Louis, Yann-Arthur, Pierre, Jessica, Quentin et Jade vont poser leurs questions à l'évêque.
Mgr Cristori, je vous souhaite la bienvenue ici.
Merci.
Dans cette émission. Nous avons passé la journée d'hier à échanger avec vous autour du thème de la sainteté. Et nous sommes très heureux, juste avant que vous partiez, de vous inviter dans cette émission qui donne la parole aux jeunes.
Merci de votre parole et merci de vos questions. J'attends avec joie.
Selon vous, qu'est-ce que la sainteté ?
La sainteté, c'est un mot qui nous paraît un peu lointain parce que dès que quelqu'un se regarde lui-même, il dit « je ne suis pas un saint, moi ». Mais la sainteté, elle peut être aussi comprise comme une réalité simple de la vie qui consiste à rendre ma vie conforme à l'appel à aimer que Jésus m'a tendu. Il me dit « aime ton Dieu, aime ton prochain ». Donc c'est vous qui êtes là, des lycéens, donc vous côtoyez des jeunes dans vos lycées, vous avez une famille, vous avez peut-être d'autres lieux de vie sociale, du sport, des arts. La sainteté, c'est d'être un chrétien libre, aimant Dieu, mais aussi dans votre rapport aux autres, leur manifester cet amour, cette bienveillance, ce sens du service, cette délicatesse du cœur qui ne juge pas, mais qui prend en compte ce que sont les autres. Et donc, plus encore que la tolérance, c'est vraiment cultiver l'amour des autres. Voilà ce que pourrait être la sainteté pour vous.
Est-ce que selon vous, on peut devenir saint avant de monter au ciel ?
Je crois que c'est mieux d'être saint avant, parce que si on n'est pas saint avant, je ne sais pas ce qui se passe quand on monte au ciel. J'ai peur qu'on ait quelques remontrances de la part du bon Dieu. Donc, l'Église nous appelle à être saint tout de suite, quoi. C'est maintenant, tout de suite, aujourd'hui, pas demain. Donc, n'attendons pas.
Moi, je voulais vous demander, vous pouvez trouver un rapport avec la sainteté dans cette question, mais est-ce qu'il y avait un souvenir d'enfance qui vous a marqué et dont vous avez encore souvenir aujourd'hui et qui, quelque part, guide vos pas vers la sainteté, j'espère?
C'est une question, je ne sais pas. Si je pense, spontanément, je pense à un vieux prêtre. Quand j'étais en l'âge du collège actuel, donc vers 12-13 ans, on avait un vieux prêtre qui avait été, pendant la guerre, arrêté et prisonnier de guerre. Alors, il avait eu le scorbut, c'est une maladie qu'on a quand on n'a pas les bons nutriments, pas de vitamines, entre autres. Et donc, il n'avait plus qu'une dent. Alors, on l'appelait « n'a qu'une dent ». C'est pas très sympa, hein, mais on était des gamins. Alors on l'appelait. Mais en fait, il avait une véritable bonté. Il était un regard plein de bonté, ce prêtre. Il avait vu des choses difficiles, mais il était avec nous et sans jugement. C'est peut-être un souvenir qui me revient à l'esprit maintenant que tu me poses la question. Maintenant, j'ai d'autres souvenirs de sainteté. Parce que j'ai eu la joie quand j'étais, par exemple, jeune homme adulte, mais en recherche de foi et que je me suis à nouveau converti. J'étais le chauffeur de Mère Teresa. Elle était dans ma voiture, à ma droite. Et je la conduisais dans Paris, en voiture. Et cette femme m'a beaucoup marqué parce que c'était une femme toute petite, moi qui suis grand, et qui avait un regard très perçant, qui était aussi un regard de très grande bonté, de très grande délicatesse. Et qui nous conduisait à Jésus, quoi, tout pour Jésus. Et puis ensuite, elle-même, elle savait incarner cet amour de Jésus qu'elle avait dans le soin des malades, le soin des mourants, le soin des personnes en situation de handicap, etc. Et elle l'a montré mille fois au monde, quoi. Donc c'était pour moi aussi une belle expérience de sainteté très concrète que j'ai côtoyée.
Je ne sais pas si cette question est indiscrète, mais j'aimerais savoir ce qui vous a poussé à choisir de faire votre vie avec Dieu et non avec une femme.
Alors, j'ai envie de te répondre d'abord que je fais ma vie avec plein de femmes. Je suis entouré de femmes. Ça peut être d'abord ma propre mère. J'ai des sœurs, j'en ai trois que j'aime beaucoup. J'ai aussi des tas d'amis hommes, mais aussi femmes, des familles, des femmes célibataires. Et puis je côtoie des femmes dans le ministère que j'ai d'évêque. Donc je bénis Dieu d'être entouré par elles. Et j'ai besoin de leur présence parce que c'est une présence qui regarde la vie de manière différente qu'un homme, et notamment de l'homme que je suis. Maintenant, mon chemin personnel, c'est que, de fait, à 26 ans, une femme m'a attiré et m'a emmené à un groupe de prière, alors qu'à l'époque, je n'avais pas la foi, et que, où il y avait beaucoup de jeunes adultes qui avaient la foi, une foi joyeuse, et c'était à Paris. À l'époque, je travaillais comme ingénieur, et que ce chemin, rapidement dit, de foi nouveau pour moi, m'a amené à côtoyer d'autres chrétiens, des lieux comme Parelmonial, où Jésus a montré son cœur plein d'amour, et puis avoir des prêtres, notamment des prêtres heureux d'être prêtres, jeunes, et que, ultimement, moi je voulais ma vie d'ingénieur, j'avais un gros job, ça se passait très bien, j'avais des amis, j'aime beaucoup la famille, mais il y a eu une retraite que j'ai faite 2 ans et demi après, où tout m'a parlé que d'être prêtre. Pendant 6 jours, c'était des textes, des homélies, des lectures que je faisais, tout me parlait que d'être prêtre, et j'en étais profondément heureux, une sorte de joie intérieure, qui a jailli en moi, que je ne connaissais pas avant, cette joie-là, et j'ai dit, oui, Seigneur, je te donne ma vie, quoi. Et j'ai accueilli donc l'appel à être prêtre dans le célibat, pour être totalement à Dieu, et, enfin, autant que je peux, et d'être totalement aux hommes, et aux femmes, enfin, aux gens que je sers. Voilà, donc j'ai choisi le célibat pour le royaume, j'ai pas choisi de vivre sans la famille, et j'ai une grande famille, qui est l'Église, et qui me donne beaucoup. C'est une vie différente que celle habituellement envisagée par les gens, mais une vie aussi de rencontres, de tendresse, d'intimité, où on partage beaucoup de choses. Ce n'est pas une vie qui est vide, elle est bien pleine au contraire.
Alors, en ce moment, dans l'Église, il y a de nombreuses affaires, des prêtres qu'on découvre, qui sont dans des affaires judiciaires pour des crimes qu'ils ont commis. Des fois, il y en a qui ont ce sentiment, quand on parle avec nos amis qui ne sont pas chrétiens, que les prêtres, c'est vulgairement tous des pédophiles. Qu'est-ce que vous pensez que l'Église
doit faire, doit montrer
pour reconquérir, pour prouver que c'est pas ça l'Église?
D'abord, je pense que l'Église, elle est justement appelée à la sainteté. Et si elle l'est pas, elle ne touchera pas les gens. Les gens n'en ont pas besoin d'une Église qui n'est pas sainte. La sainteté, c'est d'apporter le Saint qui est Jésus et sa parole de vie. Si nous, chrétiens, globalement, nous ne sommes pas fidèles à cet appel-là, les gens n'en ont rien à faire de ce qu'est l'Église. Jésus a dit une parole qui est très dure, il a dit « vous êtes le sel de la terre ». Le sel, ça donne du goût, mais à l'époque, ça conservait aussi la nourriture, à l'époque de Jésus. Donc, conserver l'alliance, conserver l'amour, quoi, hein, conserver l'unité, la communion entre les gens. Et il a dit « si le sel s'affadit, donc s'il perd son goût, on va le jeter dehors et les gens le piétineront ». Donc, si on se fait piétiner, il faut s'interroger si on a été fidèle à l'évangile jusqu'au bout, à l'amour jusqu'au bout. Alors, tu fais référence à des cas de pédophilie. D'abord, les victimes sont réelles, donc il y a des gens qui ont été victimes et qui ont une grande souffrance, et il faut penser à elles, bien sûr, et les accompagner et les recevoir. Et l'Église aujourd'hui fait depuis maintenant 15-20 ans en France beaucoup d'efforts à ce niveau-là. Il y a une cellule d'écoute à Chartres avec 5 personnes assez expertes, médecins, psychologues, etc., donc disponibles. Maintenant, forcément, un cas, c'est un cas de trop. Il faut être très clair. Hein. Un cas, c'est un cas de trop. Mais le nombre... Il y a un rapport qui sort aujourd'hui même de la conférence épiscopale qui recense le nombre de cas, le nombre de situations. Et en fait, on se rend compte qu'il y a quelques cas aujourd'hui. Il y a quelques prêtres en prison. Il y a, bien sûr, des gens qui rapportent des faits assez anciens, qui ont 20 ans, 30 ans, 40 ans, qui osent parler maintenant, qui osent le dire. Mais grâce à Dieu, il y a très peu de cas aujourd'hui. Ça se compte sur le doigt d'une main, enfin les cas nouveaux, enfin qui sortiraient de cas nouveaux, quoi. C'est peu, ça reste trop. Et le langage des médias est souvent très globalisant. Et c'est un langage qui parfois est dur pour nous, parce que quand on dit les abus sexuels du clergé ou des prêtres, alors ça veut dire que tout le monde fait ça ou quoi. Mais en fait, c'est dans le diocèse, par exemple, eh bien aujourd'hui, moi, j'ai pas de prêtre mis en cause. Donc, je rends grâce à Dieu, j'ai confiance dans les prêtres, et beaucoup de prêtres sont des bons prêtres. Est-ce que les gens vont s'en rendre compte à l'extérieur? Voilà, je ne sais pas, il faut qu'on soit authentique et vrai. C'est une croix à porter aujourd'hui. Parfois, on se fait insulter, pas très souvent quand même, mais ça peut arriver. En tout cas, puisque le péché est révélé de quelques prêtres et de l'Église qui parfois n'a pas su comprendre, n'a pas su accompagner, ça nous invite à nous convertir vraiment et à nous dire que la sainteté est un appel exigeant mais nécessaire, qu'il faut le prendre au sérieux. Et je pense qu'une Église faite de nous tous, hommes et femmes, laïcs et consacrés, qui est une Église sainte et généreuse, va toucher les cœurs et les attirer, en fait. C'est là mon espérance, vraiment.
Mais des fois, en entendant ça, je me pose la question, pourquoi le diacre doit faire sa vie avec une femme et non un prêtre? Peut-être qu'on entendrait moins parler de ça. Je comprends pas pourquoi le diacre et pas le prêtre.
D'abord, je crois qu'il faut vraiment désolidariser la question du célibat des prêtres et la question de la pédophilie. La preuve en est, malheureusement, que la plupart des cas de pédophilie, c'est l'inceste familial. Et que la plupart, c'est 9 ou 9,5 cas sur 10. Après, ça peut être, malheureusement, dans les institutions, aussi le corps enseignant, parfois, les lieux de sport, les lieux artistiques ou autres, etc. Donc, c'est pas... Quand quelqu'un est pervers, malheureusement, il peut être père de famille et pervers avec ses enfants. Après, c'est vrai qu'il y a des diacres, donc des hommes qui sont mariés et qui reçoivent le diaconat pour être conformés au Christ serviteur et donc servir les autres dans l'Église. Et c'est une très belle vocation, mais qui implique aussi que la femme soit d'accord et qu'ils vivent ça en famille, on peut dire. Le prêtre a un appel différent. Par le sacrement qu'il a reçu, le sacrement de l'ordre, il représente le Christ, homme, célibataire, et Dieu parmi l'Assemblée, parmi le peuple chrétien. Là où le prêtre doit aujourd'hui comprendre plus encore, et le pape insiste là-dessus, comme pour l'évêque, c'est que nous sommes consacrés au service, et non pas pour avoir le pouvoir. Et que ce service est vraiment un don appelant à l'humilité, à la simplicité de vie, à la générosité. Et un appel aussi à ce que chacun de vous tous, hein, et moi je vous dis, vous les jeunes, vous n'êtes pas l'avenir de l'Église, vous êtes l'Église, aujourd'hui, donc c'est... À vous aussi d'être créatif, d'avoir des idées, des envies d'avancer, de faire des choses pour les autres, d'annoncer le royaume de Dieu. Et vous avez le droit de le faire.
Actuellement, on voit de moins en moins de jeunes dans les églises. Enfin, la plupart du temps, c'est pas des jeunes. Et donc, comment l'église pourrait réattirer, entre guillemets, la jeunesse? Et pourquoi aussi on sait qu'il y a plein d'endroits en France où il n'y a plus assez de prêtres, plus assez de... Enfin, comment redonner un nouveau souffle à l'église?
D'abord, on est à Thésée, puis à Thésée, moi, je vois plein de jeunes, hein, donc c'est super, voilà. Ensuite, je vois des lieux aussi où il y a beaucoup de jeunes, comme les sessions d'État parémoniales, mais aussi beaucoup de rencontres de jeunes dans différentes communautés ou diocèses. Après, l'Église se pose la question en vérité, comme tu me la poses. La preuve, c'est qu'il y a eu un synode pour la jeunesse à Rome, donc ce synode a réfléchi à une pastorale des jeunes. Mais moi, je pense aussi que la réponse, c'est vous qui l'avez. C'est-à-dire que qui peut parler... mieux qu'un jeune à des jeunes, je ne sais pas, moi je ne suis plus un jeune. Ça fait 35 ou 40 ans que je ne suis plus un jeune. J'assume ce que je suis un adulte, voilà. Il y a des tas de codes que je ne connais pas, des façons de voir la vie, et vous la connaissez parce que vous côtoyez d'autres jeunes. La question qui se pose, c'est qu'est-ce que vous pourriez imaginer pour rejoindre ces jeunes comme chrétiens? Et nous, qui sommes peut-être en responsabilité dans l'Église, eh bien c'est de vous donner les moyens de le faire. Par exemple, moi j'encourage énormément la musique. C'est comme un vecteur de joie, mais aussi de la foi, la musique. Plein d'entre vous sont musiciens, plein d'entre vous savent chanter, créer des groupes de chants, de louanges, de musique, par lequel on peut donner aussi un témoignage de vie. Et d'autres idées sortent, hein, de jeunes qui pourraient être un peu comme des coopérants parmi la jeunesse. Beaucoup partent, d'ailleurs je suis très touché de ça, des 20-25 ans, ils partent en coopération. Un ou deux ans au bout du monde pour servir. Il y a une vraie générosité dans votre génération. Alors ne vous bridez pas, quoi. Et moi, comme évêque, j'ai envie de vous dire, apportez vos idées et je vous aiderai à les mettre en place. C'est un élan du cœur, d'abord. Et puis, une liberté aussi d'être vous-même. Vous êtes chrétien, soyez libre. On a un message magnifique. La question, c'est est-ce qu'on est vraiment témoin de ce message ?